Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Africas Odius Dets de Lyons Indicumana et James Cabois est un essai de l'économie politique et de finance du développement consacré à la crise de la dette extérieure en Afrique subsaharienne. Le livre soutient que l'endettement public ne peut pas être compris sans analyser un phénomène associé et souvent simultané, la fuite de capitaux. Les auteurs décrivent un mécanisme dans lequel des emprunts contractés au nom des populations alimentent, directement ou indirectement, des sorties de fonds vers l'étranger. Tandis que la charge du service de la dette demeure publique, en s'appuyant sur des données et des analyses comparatives. L'ouvrage renverse l'idée reçue selon laquelle l'Afrique serait principalement bénéficiaire de la finance internationale, en avançant qu'elle peut se retrouver créancière nette lorsque l'on met en regard dette publique et avoirs privés externes. Son objectif est à la fois analytique et normatif, en ouvrant un débat sur la légitimité de certaines dettes et sur les réformes nécessaires pour limiter ces pertes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le lien structurel entre emprunts extérieurs et chute de capitaux. Un fil directeur du livre est l'articulation entre l'arrivée de financements externes et la sortie quasi concomitante de ressources financières. Indicumana et Boyce décrivent un enchaînement haut des prêts accordés à des États, souvent dans des contextes de contrôle institutionnel faible, coexistent avec des transferts vers des comptes privés à l'étranger. L'intérêt analytique de ce cadre est de déplacer la question de la dette. Non plus seulement vers la capacité de remboursement ou la qualité des projets financés, mais vers la trajectoire effective des fonds. Les auteurs insistent sur le fait que l'endettement est public, donc supporté par les contribuables et par les budgets sociaux, tandis que les actifs accumulés à l'extérieur sont privés et fréquemment dissimulés. Cette dissociation crée un paradoxe politique et moral, les populations héritant d'obligations financières sans bénéficier des ressources correspondantes. En reliant dette et fuite de capitaux, le livre met aussi en cause la responsabilité partagée de plusieurs acteurs, dont des élites locales et des intermédiaires financiers internationaux, et ouvre la voie à une analyse de la dette comme symptôme d'un système de gouvernance des flux transfrontaliers défaillants, de ciment. Une relecture de la position financière de l'Afrique dans le monde, l'ouvrage conteste l'image d'un continent structurellement dépendant et débiteur en toutes circonstances. En proposant une comparaison entre deux grandeurs, la dette extérieure publique et les avoirs privés place à l'étranger, lorsque la fuite de capitaux est importante. L'accumulation d'actifs externes peut, dans certains cas, dépasser le stock de dette, ce qui permet de parler d'une forme de créance nette vis-à-vis du reste du monde. Cette relecture n'est pas seulement comptable, elle modifie la compréhension des rapports de pouvoir. Elle souligne que l'appauvrissement n'est pas uniquement lié à un manque de ressources, mais à une captation et à une externalisation des richesses, avec des effets directs sur investissement productif et la capacité des États à financer des politiques publiques. Le livre montre aussi que les indicateurs usuels peuvent masquer des réalités distributives. Un pays peut apparaître surendetté tout en abritant des groupes ayant accumulé des fortunes à l'extérieur, en mettant en avant cette dissymétrie. Indicumana et Boyce invitent à reformuler la question de la justice financière, en intégrant la dimension des actifs cachés et des circuits de placement internationaux dans le diagnostic des difficultés de développement. Troisièmement, la notion de dette odieuse et le débat sur la légitimité du remboursement. Un thème central est l'usage de la notion de dette odieuse pour qualifier des obligations contractées sans consentement réel des populations, sans bénéfice public, et avec des créanciers qui savaient ou auraient de savoir que les fonds seraient détournés ou mal utilisés. En mobilisant ce concept, le livre ne se limite pas à dénoncer des abus, il propose un cadre de responsabilité qui implique à la fois les gouvernements emprunteurs et les prêteurs. Cette approche remet en cause l'idée que toute dette souveraine doit être remboursée indépendamment des conditions de sa formation. Elle pose aussi une question de gouvernance internationale, comment traiter des dettes héritées de régimes autoritaires ou de systèmes de corruption? Et comment éviter que les coûts ne soient transférés à des citoyens qui n'ont ni choisi les emprunts ni profité des ressources? Les auteurs examinent les implications politiques et juridiques d'une contestation ciblée de certaines dettes, en soulignant les difficultés de mise en œuvre et les enjeux de crédibilité, tout en défendant l'idée qu'une discussion sur la légitimité est indispensable pour rompre des cycles d'endettement et de dépendance. Quatrièmement, les coûts humains et budgétaires du service de la dette au-delà des agrégats financiers. Indicumana et Boyce insistent sur les effets concrets de la dette et de la fuite de capitaux sur les choix budgétaires. Lorsque le service de la dette absorbe une part importante des recettes publiques, il réduit la marge de manœuvre pour financer des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation ou les infrastructures. Le livre relie cette contrainte à un mécanisme d'injustice, les populations subissent une double peine. Elles perdent des ressources via des sorties illicites ou opaques, Puis, elle supporte l'ajustement via des dépenses publiques comprimées et parfois des hausses de prélèvements. Cette perspective met en évidence le caractère cumulatif du dommage, car la réduction de l'investissement social affecte la productivité future. La cohésion sociale est la capacité administrative de l'État, ce qui peut à son tour faciliter de nouveaux détournements et renforcer la vulnérabilité à endettement. En traitant le service de la dette comme un canal de transfert net vers l'extérieur, l'ouvrage relie économie du développement et questions éthiques. En demandant ce qui est socialement défendable lorsque l'origine de l'endettement est entachée par la corruption et par la complaisance de certains circuits financiers. Internationaux. En dernier lieu, pistes de réforme, transparence financière et responsabilité des acteurs. Le livre se distingue par un agenda de solutions orientées vers la prévention et la correction. Parmi les priorités figure l'amélioration de la transparence des flux financiers, le renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et la coopération internationale afin de limiter les juridictions de opacité. Les auteurs soulignent aussi la responsabilité des prêteurs et des banques qui facilitent, volontairement ou par négligence, la sortie de fonds publics vers des comptes privés. Dans cette logique, la question N est pas seulement de mieux gérer la dette, mais de modifier les incitations et les règles du jeu, pour que l'octroi de prêt soit conditionné à des mécanismes de traçabilité et à une diligence renforcée. Ils mettent également en avant intérêt de démarches visant la récupération des avoirs volés lorsque cela est possible, et importance d'une institution nationale plus solide, capable de contrôler l'endettement, de publier des informations accessibles et de sanctionner les abus. L'ensemble constitue un programme de gouvernance financière qui lie niveau national et international, avec l'idée qu'une réduction durable de l'endettement illégitime passe par la fermeture des canaux qui rendent la fuite de capitaux rentable et difficile à détecter. En conclusion, Africa's Odious Debts s'adresse de n'abord aux lecteurs qui veulent comprendre la dette africaine au-delà des explications classiques centrées sur la mauvaise gestion ou sur les chocs externes. Les chercheurs, praticiens du développement, journalistes économiques et responsables publics y trouveront un cadre d'analyse qui relie endettement, gouvernance et architecture financière internationale. Le bénéfice principal est intellectuel et politique. Le livre oblige à raisonner en termes de bilan complet, en mettant face à face dette publique et actifs privés externalisés, et en posant la question de la responsabilité des créanciers autant que celle des élites locales. Il offre aussi des pistes pratiques, notamment sur la transparence, la lutte contre le blanchiment et la coopération pour limiter les flux opaques, qui peuvent nourrir des réformes et des plaidoyers, par rapport à d'autres ouvrages sur la dette ou l'aide. Celui-ci se démarque par son insistance sur le couplage emprunt-fuite de capitaux et par l'usage de la notion de dette odieuse pour discuter de la légitimité du remboursement. Cette combinaison donne une lecture systémique, où la réduction de la pauvreté exige de traiter simultanément les règles du crédit international, les circuits financiers et la redevabilité des gouvernements. Si vous souhaitez soutenir Professeur Léonce Ndikoumana, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!